Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, les lois de la nature. Bonjour Valérie Chansigaud.
Bonjour.
Vous êtes historienne des sciences et de l'environnement, chercheuse associée au laboratoire Sphère à Paris Diderot. Vous avez publié chez Actes Sud « Les Français et la nature, pourquoi si peu d'amour ?» et chez Buchet-Chastel « Les combats pour la nature, de la protection de la nature au progrès social ». Alors si les questions environnementales furent dramatiquement absentes de la dernière campagne présidentielle en 2017, elles devraient au contraire s'imposer lors des prochaines municipales, au moins dans les grandes villes. Place de l'automobile et des mobilités dites « douces », espaces végétalisés, pollution atmosphérique, autant de sujets de préoccupation locale qui, à n'en pas douter, figureront sur les professions de foi des candidats. C'est dans ces grandes zones urbaines, en déficit de nature, que le vote écologiste recueille ses meilleurs scores. Alors comment expliquer ce qui a les allures d'un paradoxe? Eh bien peut-être parce que, comme vous l'écrivez dans un de vos livres, les citoyens français sont convaincus d'être sensibles à l'environnement du moment que cette question reste lointaine et théorique. Il y a quelques semaines, dans les matins de France Culture, Alain Finkielkraut faisait le constat d'un appauvrissement du vocabulaire, d'une perte de la dimension esthétique et poétique de l'écologie. La nature, disait-il, disparaît au profit de la biodiversité et des écosystèmes, les paysages au profit de l'environnement. Alors c'est peut-être cette approche très théorique qui peut expliquer la difficulté de transformer la question de la protection de la nature en véritable enjeu politique. La défense de l'environnement est pourtant bien de cet ordre un défi profondément démocratique. Les lois de la nature, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Valérie Chansigaud. Pour commencer, j'aimerais d'abord avoir votre avis sur ce que disait sur notre antenne Alain Finkielkraut. La nature disparaît au profit de la biodiversité des écosystèmes.
Oui, alors c'est assez intéressant comme position parce que c'est une position qui est relativement, je dirais, française. Alors je mets beaucoup de prudence autour de ça, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que cette idée qu'un vocabulaire précis, technique, ne peut pas rendre compte de la nature et de l'émotion qu'on pourrait avoir face à cette nature, c'est une vision, c'est la vision classique qui oppose science et, on va dire, littérature et sensibilité. C'est soit scientifique et donc précis, soit on est dans l'émotion et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de la science.
Ça veut dire que votre livre, par exemple, chez Actes Sud, aurait pu s'appeler « Les Français, la biodiversité », il aurait dit la même chose ?
Alors, il n'aurait pas dit la même chose pour des raisons de chronologie, puisque je pars dès la fin du XVIIIe. Et dans ce cadre-là, on serait dans un anachronisme compte tenu au fait que c'est vraiment une question qu'il faut aborder pratiquement à la racine. Mais dans l'idée qu'on perd quelque chose en nommant biodiversité, en fait, j'ai l'expérience de côtoyer de très nombreux naturalistes et ils sont parfaitement émus par cette nature, alors qu'ils savent exactement la nommer. Pour eux, biodiversité, c'est pas une sorte d'éteignoir à l'émotion. Ça n'a strictement rien à voir. Dire c'est parce qu'on devient technique qu'on ne sait plus parler de la nature, ça relève quand même d'une simplification.
Alors on va voir si les pouvoirs publics, si les politiques sont sensibles à ces questions. Un signe qui semble plutôt montrer le contraire, c'est la condamnation récente, hein, c'était la semaine dernière, de la France par la Cour de justice de l'Union européenne pour son incapacité à protéger ses citoyens de la pollution atmosphérique.
C'est l'aboutissement d'un assez long parcours. Depuis 10 ans, la Commission européenne avertit régulièrement la France. Elle lui reproche de ne pas respecter la directive qui fixe le seuil plafond de pollution. 24 secteurs sont concernés, parmi lesquels l'Île-de-France, Marseille, Strasbourg ou Grenoble. La Cour de justice européenne estime que la France a dépassé de manière systématique la valeur limite annuelle de dioxyde d'azote. Il y a plus de 2 ans, Nicolas Hulot avait présenté un plan pour répondre à cette pollution, mais la réponse a été jugée insuffisante. Le dioxyde d'azote est un gaz très toxique. Il est provoqué principalement par les moteurs diesel. Le parc automobile en France est majoritairement au diesel. Des progrès ont été réalisés récemment sur la motorisation, mais pour autant, les émissions ne diminuent pas.
Voilà, explication d'Étienne Monin de Radio France. Valérie Chansigaud, est-ce que ce cas pris dans l'actualité est un cas qui serait relativement emblématique de l'attention, plutôt de l'inattention que portent les pouvoirs publics aux questions de protection de l'environnement?
C'est probablement un cas qu'on peut retrouver sous des formes différentes dans d'autres pays. C'est pas propre à la France, hein, clairement. C'est simplement la difficulté qu'il y a à répondre à une question qui est une question complexe. Comment améliorer, je dirais, l'environnement ou éviter de le dégrader? C'est une question d'une immense complexité et très souvent les pouvoirs publics ont des réponses très courtes. La qualité de l'air, globalement, c'est quand même amélioré dans notre pays, sauf sur certains points précis, soit territoriaux, soit en termes de certains polluants. Mais globalement, on a fait des progrès absolument considérables. Si on prend un temps un petit peu long, sur 50 ans, sur un siècle, sur deux siècles, la qualité de l'air dans les villes s'est améliorée. Pourtant, on n'arrive pas à éliminer toutes les sources des problèmes.
C'est d'ailleurs un des rares points positifs qu'on peut voir dans le dernier rapport sur l'état de l'environnement en France. C'est un rapport qui est publié tous les 4 ans, qui a été présenté, alors hasard du calendrier, exactement le jour de la condamnation par la Cour européenne. C'est un rapport qui a eu très peu d'écho dans les médias, alors qu'il évoquait la hausse des émissions de CO2 et les atteintes de plus en plus fortes à la biodiversité sur le territoire français. Comment est-ce que vous expliquez, est-ce que ça vous surprend en tout cas qu'il y ait eu aussi peu d'écho pour un rapport a priori important?
C'est un rapport d'autant plus important que le nombre de sujets abordés est assez large, puisqu'on retrouve toute une partie consacrée aux questions sociales, d'inégalité sociale, parce qu'on sait que les problèmes d'environnement ne touchent pas les classes sociales de la même façon. Et c'est vrai que curieusement, ce document qui est d'une grande richesse, d'une grande précision, en plus, il arrive après d'autres études du même genre sur plusieurs décennies. Donc, ça permet d'avoir un fil conducteur pour voir l'évolution. Et c'est vrai que d'une certaine façon, alors peut-être parce que ça paraissait trop technique aux yeux de certains, ça n'a pas été repris en compte de façon précise, alors qu'il y avait de la matière, en fait, pour susciter toute une série de débats.
Et alors que l'environnement est censé être aujourd'hui, d'après les sondages d'opinion, la première préoccupation des Français, Valérie Chansego?
Oui, mais parce que c'est facile de se dire préoccupé et beaucoup plus difficile de retrousser ses manches et de se dire, voilà, par quoi on commence.
Et vous donnez d'ailleurs une des clés, peut-être, de ce décalage entre le discours et puis la réalité, dans un de vos ouvrages, en évoquant une fascination typiquement française pour une approche extrêmement théorique des problèmes sociaux et environnementaux. Les questions environnementales, écrivez-vous, seraient trop bassement matérialistes pour susciter un véritable engouement.
Ça, c'est très difficile à saisir parce que on peut facilement tomber dans, je dirais, une façon assez caricaturale de présenter les choses. Mais il est clair qu'en France, il y a une sorte de fascination pour des choses extrêmement théorisantes. On peut voir d'ailleurs le succès du marxisme pendant des décennies. C'était le pays qui était le plus marxiste de la planète pendant longtemps. Et dans ses aspects, encore une fois, les plus complexes, voire les plus hermétiques. Et l'approche un petit peu pragmatique des choses, matérielles, de connaître effectivement les dossiers dans ce qu'ils ont de, on reprend l'expression de Finkielkraut, le plus technique, c'est peut-être souvent la seule façon pour aborder ces questions-là. On ne peut pas simplement avoir une position générale ou généreuse par rapport à ça, il faut rentrer dans le détail. C'est dès qu'on rentre dans le détail qu'effectivement les problèmes surviennent.
On a du mal en France à faire le lien entre sciences du vivant et sciences politiques, c'est-à-dire à faire de ce sujet un véritable sujet politique, Valérie Chansego ?
De faire des liens entre les sciences en général et la traduction, on pourrait dire, de la mise en œuvre d'un programme politique. Et parfois, c'est renversant de légèreté. Par exemple, il y a tout un courant actuellement qui vise à dire bon, on va trier ses déchets, on va être vertueux par rapport à la gestion de ses déchets, sans se soucier de la chaîne complète que représente le tri des déchets. C'est pas simplement que de mettre tel déchet dans telle poubelle, c'est de savoir après que devient la poubelle. Et on sait qu'une grande partie des déchets soigneusement triés, par exemple en Allemagne, parce que je m'intéresse depuis longtemps à ce pays, les Allemands sont à l'avant-garde en quelque sorte du tri, avec souvent 5, 6, 8, 10 poubelles différentes au bas de leur immeuble. Et pourtant, une partie de ces déchets partait en Chine.
Alors vous évoquez, Valérie Chansigo, un excès peut-être de théorisation sur ces questions qui fait qu'on aurait une forme de distance par rapport aux questions environnementales. Et pourtant, les grands concepts liés à l'écologie ont été inventés par des non-français. Comment est-ce qu'on vous expliquait ce qui me semble peut-être une contradiction ?
À l'écologie scientifique, pas l'écologie politique, à l'écologie scientifique. En fait, l'écologie scientifique est née à la fin du 19e, début 20e, et a été portée par une vague de fond d'un intérêt pour l'étude de la nature dans ce qu'elle avait de plus ordinaire. Suivant une expression que j'aime bien, qui a été inventée par des historiens anglo-saxons, ils parlent de landscape. C'est la contraction entre landscape, paysage et laboratoire. En fait, le paysage devient le laboratoire. Et au lieu de faire de la biologie extrêmement théorique, les Français étaient vraiment champions de ce côté-là, les Allemands, les Anglo-Saxons ont développé vraiment un intérêt extrêmement fort et des connaissances extrêmement précises pour la nature réelle. Ils l'étudiaient dans son environnement. Et les Français ont été extrêmement absents de ces courants-là. Ce qui fait que lorsqu'on a commencé à théoriser le fonctionnement des écosystèmes, concept anglais, et bien tout simplement, il y avait très peu de Français, c'est pas qu'il n'y en avait pas, c'est qu'ils étaient très rares, pour soutenir cet effort.
Et est-ce que ça a un effet sur la façon dont les politiques s'approprient ces questions ?
Non, je pense que c'est compliqué parce que là, pour le coup, on passe vraiment de deux problématiques assez différentes. Mais dans le champ politique, on peut observer, par exemple, au XIXe siècle, une plus grande difficulté des Français à traduire en des mouvements concrets des prises de position qui leur paraissent normales et naturelles. Je donne un exemple. Par exemple, les mouvements en faveur des animaux sont nombreux et extrêmement variés dans à peu près tous les pays que j'ai étudiés, pays germanophones et anglophones. Et en France, la SPA peine à survivre à la fin du 19e. Et ça, c'est des choses vraiment très très surprenantes. On a l'impression que les Français ont du mal à faire quelque chose, c'est de se rassembler, quelles que soient leurs différences, par rapport à un objectif concret et matériel. Et du coup, il y a une peine à émerger comme mouvement organisé.
Et peut-être aussi une peine à garder une forme de cohérence dans la pensée. Valérie Chansigo, là on va en venir au chef de l'État, enfin un certain nombre de présidents de la République. Jacques Chirac est mort il n'y a pas très longtemps, on a rappelé son discours à Johannesburg en 2002, « Notre maison brûle », tout en rappelant également que c'était le même qui par exemple avait repris les essais nucléaires au début de son mandat. Est-ce que du côté justement des anciens chefs d'État, peut-être aussi de l'actuel, il y a une forme d'ambivalence qui serait aussi l'ambivalence d'ailleurs des citoyens français, c'est-à-dire à la fois on veut de l'écologie, mais en même temps on n'est pas toujours prêt à accepter ce que ça suppose.
Il y a toujours une très très grande, un très grand écart entre les discours extrêmement ambitieux comme ça, extrêmement on cherche à rentrer dans l'histoire au moment d'un événement mondial, et puis après la réalité du terrain où en fait c'est comme s'il y avait vraiment une situation quasiment schizophrénique avec deux personnes, une personne qui veut briller et puis après dès qu'il s'agit des affaires ordinaires on oublie complètement ce qu'on a dit la veille. Et ça, c'est tellement constant et tellement frappant que c'est vraiment absolument fascinant. Mais encore une fois, c'est à la fois le propre des présidents français, parce qu'ils ont tous à peu près fait ça, mais également Nixon qui a donné des très beaux discours à la fois contre la guerre et aussi pour l'environnement. Après, c'est un peu compliqué de voir la pratique, encore une fois ordinaire, comment elle est traduite.
Il y en a un autre qui illustre assez bien aussi cette contradiction, Valérie Chansigo, et vous le mentionnez dans Les Français et la Nature, c'est Georges Pompidou. C'est sous sa mandature qu'a créé le premier ministère de l'Environnement. Le premier ministre de l'Environnement, c'est Robert Poujade. En même temps, Georges Pompidou, il a laissé le souvenir d'un président qui était très favorable au développement de l'industrie. Et écoutez cet archive de 1971. Pour lui, les deux n'étaient pas forcément contradictoires.
il faut se résigner au progrès économique. Et à partir du moment où on se résigne, il faut essayer au contraire de l'organiser et de le contrôler. Alors, est-il compatible avec l'environnement ? Mais évidemment, il est compatible avec l'environnement. Ce n'est pas simplement le même environnement qu'avant. À partir du moment où on met une usine, ça n'est pas la même chose que lorsqu'il y avait une bergerie, c'est certain. Mais ça n'est pas forcément plus laid.
Georges Pompidou, 1971, qu'est-ce que vous pensez de cette archive, Valérie Chansigo ?
Parce que 71, il y avait déjà toute une pensée des questions environnementales, de la destruction des territoires. Enfin, c'est terrible, parce que si on ne savait pas que c'était... Enfin, si on oublie le nom de la personne qui prononce ces paroles, c'est d'un niveau absolument consternant. Et là, vraiment, ça manque... d'une véritable culture matérielle, de compréhension de ces phénomènes. C'est pas une question de beauté ou de laideur, l'impact d'une usine ou d'une bergerie, c'est pas en termes esthétiques, c'est en d'autres termes.
Il y a un autre cas que je trouve intéressant, que vous évoquez toujours dans le même ouvrage, Valérie Chansigo, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'est à la fois le Grenelle de l'environnement, et puis une certaine visite au salon de l'agriculture. Je vous laisse raconter.
Oui, où il dit que l'écologie, ça suffit. L'environnement, ça suffit. Il est extrêmement agacé. Il veut, on sent bien aussi la démarche quand même de séduction du monde agricole en disant que voilà, on régule trop. C'est quelque chose qui, à ce moment-là, il rejette.
De ce point de vue, est-ce qu'on pourrait faire une différence d'ailleurs dans la façon dont les gouvernements de droite et les gouvernements de gauche aborde ces questions? Est-ce qu'il y a une différence notable, ou bien qu'on soit de droite ou de gauche, les questions environnementales sont à peu près abordées de la même manière?
Alors, si droite et gauche renvoient aux partis qui se sont succédés au pouvoir, c'est vrai que c'est pas totalement évident de voir de très très grandes différences. Encore une fois, ce qui est difficile de juger comme ça un petit peu à l'emporte-pièce, c'est qu'il y a eu malgré tout des avancées qui ont été faites. Il y a eu malgré tout des décisions qui ont été prises, qui ont été bonnes, parfois qui ont été prises avec beaucoup de retard. Par exemple, l'interdiction du chlordécone arrive de façon tout à fait scandaleuse, bien plus tard que l'interdiction aux États-Unis. Ce qui s'explique en partie d'ailleurs par un monde d'organisations non gouvernementales plus faible qu'aux États-Unis. On sait le poids de certaines ONG pour porter l'interdiction du chlordécone. Mais... c'est ça qui est terrible. Ça ne veut. Il y a des choses qui sont faites, mais ces choses-là sont pas assez ambitieuses par rapport aux problèmes posés. Et d'une certaine façon, certaines avancées contribuent à maintenir les problèmes. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à interdire les pesticides modernes à partir de 1970, d'une certaine façon, ça fait perdurer dans le temps le problème des pesticides. On voit bien, on n'en est pas sorti, parce que le problème ne venait pas des pesticides, mais de la façon de l'usage des pesticides, la finalité des pesticides. Interdire le pesticide ne réglait pas le problème social, politique et économique qui était derrière l'usage désordonné des pesticides.
Vous évoquez le poids des ONG, Valérie Chansigo, mais en face, il peut y avoir aussi le poids de certains lobbies, lobbies industriels, lobbies agricoles, lobbies de la chasse. Est-ce que leur place, je ne sais pas si elle est particulière ou pas en France, mais peut expliquer le sort un peu spécial qui est réservé aux politiques de l'environnement ?
Alors, ce qui est fascinant, c'est que dans les années 1930, paraît aux États-Unis un livre absolument extraordinaire, qui d'ailleurs est un succès de librairie, qui s'appelle 100 millions de cobayes, où on dénonce en fait les excès des industries pharmaceutiques, de l'alimentation polluée par les pesticides, toute une série en fait et de choses qui dysfonctionnent, en disant mais le pouvoir est corrompu par le poids des lobbies. C'est-à-dire, ce qui est absolument fascinant, c'est que cette situation dans laquelle on vit, où les lobbies sont effectivement très présents, c'est quelque chose qui est quasiment universel et qui dure dans le temps de façon absolument vertigineuse.
Il faut rappeler d'ailleurs que quand Nicolas Hulot démissionne du ministère de la Transition écologique et solidaire, c'est, alors il y a tout un tas de raisons, mais on va dire la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est la présence d'un lobbyiste de la chasse lors d'une réunion qui engage la réforme justement de la chasse. Et là, il dit, bah voilà, là, c'est plus possible. C'est quelque chose de courant, ça. Encore
oui.
Aujourd'hui, Valérie Chancelot.
Le groupe parlementaire, à ma connaissance, le plus important, c'est celui qui s'occupe de la chasse.
Alors que ça représente un pourcentage très minime de la population française, les chasseurs.
Ou de l'activité économique du pays. Je pense qu'il y a d'autres sujets qui mériteraient des groupes d'études parlementaires. Mais par exemple, la chasse fonctionne un peu de façon assez étonnante en France, puisqu'on n'a qu'une seule société de chasse. La cotisation est obligatoire. Il y en a trois en Allemagne. Ce qui paraît, au regard des exigences démocratiques, plus logique, plus rationnel.
Puisque vous nous amenez du côté du Parlement, en quoi le système parlementaire français peut, là encore, peut-être expliquer un certain nombre de freins pour mener une véritable politique en faveur de la nature, Valérie Chancigaud?
Alors, si on prend les parlements d'Europe occidentale, à peu près dans tous les parlements, des députés verts sont élus, rentrent dans ces parlements beaucoup plus tôt qu'en France. Et encore, en France, il y a des députés verts simplement parce qu'il y a un accord avec le PS. Sinon, ils n'auraient jamais accédé. Et ça, c'est clairement lié au bipartisme français qui fait que les petits partis ne peuvent pas émerger, ne peuvent pas avoir une représentation nationale. Ce qui pose d'ailleurs des questions en termes de fonctionnement démocratique, parce qu'on ne voit pas que pourquoi une force qui arrive à rassembler un nombre quand même relativement important de citoyens n'aurait pas de représentation. Et l'absence de représentation pose un problème parce que ça empêche d'asseoir le fonctionnement en fait financier de ces mouvements, et du coup le bipartisme empêche complètement toute émergence de nouvelles organisations.
Sauf qu'on va vous rétorquer, Valérie Chancigaud, que ces questions, de manière, elles transcendent tellement aujourd'hui les clivages politiques, il y a forcément nécessité de faire apparaître de nouvelles forces qui aient un poids aussi important que les forces classiques, même si le bipartisme est un peu remis en cause depuis quelques temps.
Le problème, c'est que on a tendance à ne pas comprendre la nature politique des questions environnementales. C'est-à-dire que les questions environnementales sont certes techniques et matérielles, mais la façon de répondre à ces questions, elle, engage un positionnement politique. On voit bien que la référence à l'écologie par l'extrême droite n'est pas de même nature que la référence écologique d'un parti progressiste, par exemple. La référence à la nature lorsqu'il s'agit de définir le droit des individus en disant il faut respecter les lois de la nature, pour reprendre le titre de votre émission, dès qu'il s'agit du mariage homosexuel ou d'autres choses encore, pose un problème en termes de liberté publique. Et là, c'est pas parce qu'on fait référence à la nature qu'on ébauche le moindre projet politique. Le projet politique, c'est autre chose.
Un mot sur la composition du pouvoir exécutif par rapport à ces questions. Est-ce que vous considérez que, par exemple, l'architecture en silo des différents ministères, elle ne convient pas à ces questions liées à la protection de l'environnement, la transition écologique? Et je fais aussi référence d'ailleurs à une tribune que vous aviez co-signée dans Le Monde, c'était en 2016, dans laquelle vous demandiez la création d'un secrétariat d'État à la condition animale. Est-ce qu'il faudrait revoir l'architecture aussi du pouvoir?
Oui, là, il s'agissait d'imaginer en fait un symbole qui permettrait de pousser en fait les questions par rapport effectivement à la condition animale. Moi, j'ai l'impression que le problème, c'est pas la structure ou la composition du gouvernement, c'est la finalité du gouvernement, c'est quel projet de société il y a derrière. Si le projet de société, c'est pour favoriser les inégalités sociales ou du moins les faire perdurer dans le temps, de toute façon, le projet écologiste, si tant est que ça a un sens de le présenter comme ça, sera de toute façon complètement biaisé. Donc c'est pas tant la forme du gouvernement que, encore une fois, quel type de société voulons-nous au-delà de cette question d'écologie.
Et ça, ça passe sans doute notamment par des questions d'éducation, de pédagogie, Valérie Chansigaud. Bonjour Cyril Marchand.
Bonjour.
Dans les pays scandinaves, à propos d'éducation, eh bien, on fait la classe régulièrement en pleine nature.
Oui, l'école en pleine nature, c'est un projet qui a vu jour en 1952 dans la banlieue de Copenhague. Et il s'est depuis largement développé au Danemark, puisque 2 écoles sur 10 font classe dans la forêt. La journaliste Moïna Fauchier de la Vigne, qui vient de publier un ouvrage intitulé « L'enfant dans la nature » chez Fayard, considère que ce dispositif est d'abord un atout pédagogique.
La nature, elle offre ce que n'offrera jamais une classe à l'intérieur et entre quatre murs. C'est un terrain de jeu avec une diversité de textures, de senteurs, de matériaux, des créatures, des plantes. C'est un terrain pédagogique qui est très intéressant aussi. Et c'est surtout un éventail de possibles. Et en libérant des contraintes, on libère aussi de beaucoup de sources de tensions qu'on a dans les écoles à l'intérieur, par rapport au territoire et par rapport au bruit notamment. Donc les enseignants ne seront plus obligés de demander systématiquement aux enfants de se taire et de ne pas courir à l'intérieur de la classe. Par exemple, c'est plus un problème.
Ces dernières années en France, certains enseignants ont eu la volonté de mener l'expérience sur leur temps libre et en dehors des programmes. L'éducation nationale, de son côté, appréhende les risques que représente la classe en forêt pour la sécurité des enfants.
Dans le département des Deux-Sèvres, une enseignante avait commencé à faire classe dehors une fois par semaine, toute une matinée, dans un espace de nature à côté de son école, qu'ils ont peu à peu aménagé. Un espace où il y ait moins de contraintes et où il y ait plus de possibilités. Dehors, il y a plus de surprises, donc il y a plus de risques. Mais c'est aussi ça qui donne tout l'intérêt à la chose. Et c'est quand on sort qu'on peut se faire mouiller, et c'est quand on sort qu'on vit plus intensément. Et c'est aussi à l'extérieur qu'on peut faire face à des risques qui sont des risques réels, mais qui peuvent être réfléchis en amont par les éducateurs. Et c'est cette dose de risque qui est nécessaire dans la vie pour apprendre, qui est nécessaire pour avoir un plaisir aussi de jouer, parce que s'il y a une vie où il y a absolument zéro risque, c'est une vie déjà qui n'existe pas. Le risque zéro est totalement illusoire et chercher le risque zéro est même dangereux en fait.
La journaliste Moïna Fauchier de la Vigne, co-auteur de « L'enfant dans la nature », paru cette année aux éditions Fayard.
Valérie Chansigaud, une toute dernière question. Finalement, pour qu'on soit plus sensible à ces questions-là, est-ce qu'il ne faudrait pas tous qu'on aille revivre dans la nature plutôt que de se terrer dans les villes qui sont tellement à l'écart d'un environnement censé être sain, plus sain?
Je pense que l'avenir de la nature passe par les villes et dépend des villes. Parce que si on mettait tous les urbains qui sont maintenant majoritaires sur la planète dans ce qu'on appelle la nature, il resterait plus beaucoup de nature. Donc il faut prendre garde de partir comme ça trop rapidement et d'envisager de façon assez lucide les conséquences.
Voilà, l'avenir de la nature passe par les villes. Bah, je propose qu'on se quitte sur cette phrase-là. Merci beaucoup Valérie Chansigaud. Je rappelle les titres de vos deux derniers ouvrages, Les combats pour la nature chez Buchet-Chastel et Les Français et la nature chez Actes Sud. Politique, c'est une émission préparée par Cyril Marchand, réalisée par Somanina, avec à la prise de son Pierrick Monsigny. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr. Voilà, je vous retrouve lundi matin à 8h45 pour la transition dans les matins de France Culture. À 12h45, ce sera la suite dans les idées avec Sylvain Bourmeau. Et dans un instant, le journal de 12h30.